Voilà, la Pâque a eu lieu il n'y a pas très longtemps. C'est encore, je pense, assez frais dans nos mémoires. Et cet événement de la Pâque, c'est un peu une loupe, en quelque sorte. C'est une loupe qui nous permet, nous, en tant que chrétiens, de nous rappeler de la mort, de la résurrection de Jésus et du sens de cette mort et de cette résurrection. Mais en fait, nous qui sommes chrétiens, nous vivons avec cette loupe constamment. Il y a dans les évangiles des récits détaillés, consistants au sujet de la mort et de la résurrection de Jésus. Il y a dans l'Ancien Testament tout un ensemble de paroles qui nous indiquent l'avènement de cette mort et de cette résurrection. Il y a aussi dans les épîtres tout un ensemble de paroles qui enracinent toute notre vie de piété, toute notre vie relationnelle, toute notre vie de service pour Dieu, dans la réalité historique de la mort, de la résurrection, de l'élévation, du don du Saint-Esprit et du retour du Seigneur. Et puis il y a la scène que nous pratiquons, donc c'est vous, chez vous je crois, c'est une fois par mois, le premier dimanche du mois. Et ce moment de scène nous permet de nous approcher de la croix, de nous placer aux pieds de Jésus et de nous souvenir de ses souffrances. Mais quand nous pratiquons la scène, quand nous célébrons Pâques, nous ne le faisons pas pour prolonger un deuil. Nous nous rappelons de la mort de Jésus, et nous lui disons qu'il nous comble, qu'il nous suffit, qu'il nous remplit. Nous ne pleurons pas sur lui, nous ne pleurons pas sur sa mort, même si nous comprenons mieux ses souffrances. Mais nous pleurons souvent sur nous-mêmes, à cause duquel il est mort. Nous pleurons pour ceux qui périssent, et nous annonçons sa mort jusqu'à son retour. Comme il est vivant, comme il est ressuscité, nous ne le pleurons pas. Nous l'attendons. D'ailleurs, c'est ce qu'il a demandé aux femmes de Jérusalem qui se tenaient sur son chemin de croix, dans Luc 23. Je vais lire le texte. Comme ils l'emmenaient, ils s'emparèrent d'un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs. Et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi par une grande foule composée de membres du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles et dit, « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et vos enfants. » Lorsqu'on s'approche de la croix, lorsqu'on y repense dans nos vies quotidiennes ou au moment de la scène, on vient mesurer l'amour de Dieu. Cet amour de Dieu pour nous, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et on veut faire connaître cet amour en annonçant sa mort jusqu'à son retour. Nous cherchons aussi, au pied de la croix, la motivation pour le servir ensemble. Christ est mort pour que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est ressuscité. Dans tous les récits qui nous sont donnés concernant la mort et la résurrection de Jésus, nous voyons bien évidemment que l'importance de cet épisode dans la vie de notre Sauveur est capitale. Il y a le témoignage, par exemple, de l'officier romain reconnaissant que Jésus est le Fils de Dieu. Il y a ces résurrections spontanées. Il y a le voile qui se déchire, le soleil qui s'obscurcit, le cri de détresse mêlé de confiance de Jésus envers son Père. « Je remets entre tes mains mon esprit, Seigneur. » Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Quel mystère! Ce cri de confiance et de détresse tout à la fois. Et en parcourant les récits qui concernent et entourent l'épisode de la mort de Jésus, je suis frappé aussi par l'évidence avec laquelle Dieu continue à orienter nos regards, non pas seulement sur cette croix, mais vers l'avenir, vers la vie et vers l'avenir. Je ne sais pas si vous avez en entendu parler ces jours-ci, il y a beaucoup de personnes qui sont décédées ces derniers jours, en essayant d'escalader l'Everest. Il y a une dizaine de morts, et le phénomène est expliqué par le fait que la saison est très courte, en fait, pour profiter de l'ascension, et qu'il y a un embouteillage en bas, enfin en bas c'est déjà en haut, mais moins en haut, et en fait, les gens restent trop longtemps dans ce qu'on appelle la zone de la mort. Et certains atteignent le sommet, mais en descendant, ils meurent parce qu'ils sont restés trop longtemps dans cette zone critique. En montant vers ce qui semble être l'ultime but de leur vie, ils meurent. Nous, en nous approchant de Jésus, en nous approchant de la croix, on vit. On est dans la zone de vie. Et plus on est proche de cette zone de vie, plus on expérimente cette vie de l'Esprit en nous. Alors que le sort de Jésus est scellé, alors qu'il sait qu'il va mourir, il parle d'un repas futur avec ses disciples à son retour, à la fin des temps, à la fin extrême des temps. Il donne des instructions très pratiques à ses disciples pour préparer la Pâque. Sur la croix, il confie sa mère aux bons soins de Jean, son disciple. Et une fois crucifié et mort, nous voyons cet homme riche, Joseph, un disciple de Jésus, conduit par l'Esprit, mettre à sa disposition un tombeau disponible pour la sépulture de son corps. Mais plus encore, il y a ce récit incroyable. Pour moi, ce récit, c'est un petit peu ma Joconde. Voilà, il y a des gens du monde entier qui vont voir au Louvre la Joconde. C'est la peinture emblématique de tout ce que peut représenter l'art. Et le récit que je vais parcourir avec vous ce matin, c'est ma Joconde. Je le trouve tellement formidable, tellement riche pour nous aider à méditer, pour nous aider à comprendre la personne de Christ, pour nous aider à saisir la manière dont on vient à lui tel qu'on est. Et c'est ce récit que je voudrais lire et méditer avec vous ce matin. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats eux-mêmes se moquaient de Jésus avec eux en disant, il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie choisi par Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient pour lui présenter du vinaigre en disant, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs ». L'un des malfaiteurs, crucifié avec lui, l'insultait en disant, « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi ». Mais l'autre le reprenait et disait, « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité. » Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Je trouve qu'avec ce récit, on revient à ce qui est le plus essentiel dans notre relation au Seigneur Jésus. Jésus a déjà pris toutes ses dispositions pour vivre l'heure qu'il vit sur la croix. Son heure est venue, il attend l'ultime limite, l'ultime moment où il va mourir. Tout est presque accompli. Il doit laisser venir la mort, se jouer ce combat spirituel entre les forces du mal et le Fils de Dieu, pour que la victoire sur le péché, sur le diable, sur la mort soit déclarée. Jésus, en cet instant, ploie sous l'effet de nos fautes. Il ploie sous la condamnation qui nous était réservée. Il savait et il vit une mystérieuse séparation avec le Père. Il est tout à son sacrifice, il est tout à sa mission. L'heure est venue, tout est presque accompli. Mais il reste encore disponible, pleinement disponible pour l'essentiel. Un des deux brigands sur la croix, brigands ou malfaiteurs, ou voilà, certains pensent que ce sont des gens qui sont crucifiés à ses côtés, non peut-être pas pour des raisons de droit commun, mais parce que c'était des gens qui voulaient se soulever contre l'Empire romain. Enfin, quoi qu'il en soit, il y a deux personnes qui sont condamnés à la même peine que notre Sauveur et qui sont à ses côtés, et l'un des deux a le cœur touché par la présence de Jésus. Jésus n'a pas de parole de bénédiction pour l'un des deux qui l'insulte encore. Mais il a une attention absolue pour celui qui s'adresse à lui. Et par trois affirmations, Jésus va donner à cet homme et la vie éternelle et l'assurance de celle-ci. L'autre le reprenait et disait, « N'as-tu donc aucune crainte, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Cet homme sur la croix s'est approché au plus près de la zone de vie. Personne ne s'est approché aussi près de lui, de la croix, d'une certaine manière. Il a vécu la crucifixion en direct. Il a, je pense, plus que d'autres, entendu les soupirs de Jésus, vu le sang couler. Il a vu sans doute le corps de Jésus trembler, tétanisé sur cette croix. Il a peut-être même senti l'odeur du sang, vu la sueur perler sur le front de notre Sauveur. Il était vraiment celui qui, avec son comparse, était au plus près, peut-être, de la croix. Et ce d'autant plus qu'il connaissait quasiment les mêmes souffrances. Eh bien, ce brigand va comprendre pour sa vie trois vérités essentielles qui vont lui permettre de nouer avec Jésus une relation éternelle. La première de ces vérités qu'il comprend, qu'il saisit, c'est la réalité de son péché. Il parle à son comparse et il dit très, très, très clairement qu'il mérite, lui et cet homme qui l'accompagne sur cette croix, la condamnation qui va les conduire à la mort. Oui, nous avons péché. Oui, nous avons commis des fautes qui méritent la peine que nous subissons aujourd'hui. Il a une pleine conscience de ses fautes. Il les assume. Et nous voyons le travail de l'Esprit-Saint, dont l'action, entre autres, est de convaincre de quoi ? De péché, de justice et de jugement. Nous voyons que l'Esprit de Dieu repose sur cet homme, que Dieu exerce sur cet homme une action particulière pour lui permettre de prendre conscience des choses essentielles qui vont lui permettre de se réconcilier avec lui. Et la première chose qui me frappe, c'est vraiment cette manière d'assumer son péché. Oui, nous sommes pécheurs. Et toi comme moi, nous sommes pécheurs par rapport à Jésus. En parlant de son péché, cet homme évoque la crainte de Dieu. En prenant le RER, pour le RER c'est le transport urbain à Paris, entre les différentes régions, différentes banlieues, et donc en prenant le RER, hier j'étais dans le RER, quoi, dans le train, et puis il y avait un petit enfant avec ses parents qui jouait avec une pièce de monnaie. Un enfant de 6-7 ans, très mignon. Et puis d'un seul coup, la pièce de monnaie, il fait tomber la pièce de monnaie. Et la pièce de monnaie, elle roule. Elle va se mettre juste à l'endroit, au coin, en bas, entre la porte et le reste du wagon. Enfin, un endroit improbable, quoi. Et puis, j'observe ça un petit peu en souriant. Je regarde l'enfant. Il regarde sa pièce. Il était quand même à quelques mètres. Mais il bouge pas. Moi, je m'attendais à ce qu'il jaillisse de sa chaise et puis qu'il aille récupérer sa pièce. Donc, j'attends quelques secondes. Il bouge toujours pas. Puis, il finit par plus regarder sa pièce. Donc, j'ai été chercher sa pièce. J'ai regardé la maman et je lui ai donné sa pièce. Je sais pourquoi il n'a pas bougé. Quand on est un enfant, qu'on perd une pièce, on y va, quoi. On va là. Et je me suis dit, peut-être qu'il a tellement peur que ses parents s'aperçoivent qu'il a fait rouler cette pièce, qu'il en est pétrifié. Il n'a rien dit. Il n'a pas bronché. Il avait une crainte paralysante. Ce n'est pas de cette crainte-là dont nous parle cet homme. Puisque on sent en lui une grande liberté. Une grande liberté de parler. Une grande liberté de parler même à Jésus. C'est une crainte qui consiste à reconnaître Jésus comme étant Dieu. À l'honorer à la mesure de sa divinité, de sa sainteté. Et cette crainte procure une profonde satisfaction à celui qui l'expérimente, car il a été créé pour ça. Respecter Dieu, l'honorer. Ce brigand, ce compère, c'est en train de prêcher. Il est en train de prêcher à l'autre. Il est en train de lui donner un message. Tu ne crains pas Dieu ? Tu es un pécheur comme moi ? Il le reprend de manière franche. Et donc, cet homme, nous le voyons, est au bénéfice d'une action de l'Esprit de Dieu, c'est évident. Il a conscience de son péché, il l'assume ouvertement. La terre entière sait que cet homme a péché. Les générations qui se sont succédées jusqu'à présent savent que cet homme était un pécheur. Il est un pécheur qui s'assume, qui reconnaît son péché. Et vraisemblablement, et c'est tout à fait certain, Jésus avait besoin de l'entendre. La deuxième réalité dont prend conscience cet homme, c'est que Jésus est Dieu et qu'il est sans péché. C'est incroyable quand même de penser que ce brigand prend la défense de Jésus. Il devient son avocat. Il est le procureur pour son compère, mais il est l'avocat de Jésus d'une certaine manière. Il prend sa défense. Et il dit clairement que Jésus n'avait aucune raison de se trouver sur cette croix, si on considère qu'il n'a pas péché. C'est incroyable. Il a besoin de l'exprimer, il a besoin de l'affirmer, pas simplement de le penser, mais de le confesser. Et il le dit à nous, comme à cet homme qui est auprès de lui, que Jésus est sans défaut et sans péché. Et la troisième vérité qu'il a besoin de comprendre, qu'il a besoin d'entendre, à laquelle il aspire, c'est à la grâce de Dieu. Il assume son péché, il reconnaît que Jésus est sans péché, qu'il est Dieu, et il demande au Seigneur Jésus de se souvenir de lui quand il viendra régner. Cette affirmation me fait penser à cette parole de l'Évangile où le lépreux dit à Jésus, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Ou cet officier romain qui reconnaît à Dieu l'autorité de le guérir, mais qui lui laisse la liberté d'agir. Cette forme de réserve, qui est un mélange d'audace, d'assurance, de foi, et en même temps qui laisse la main à Dieu, qui laisse l'initiative à Dieu. Je pense que ça peut vraiment nous inspirer dans notre prière. Est-ce que cet homme est rempli de foi ? Bien évidemment, il croit que Jésus est Dieu. Est-ce qu'en même temps, il prend la place de Dieu et de Jésus ? Non. Seigneur, je crois que tu es Dieu, mais c'est toi qui décides. Je crois que tu es le Fils de Dieu, mais c'est toi qui prends l'initiative. Je crois que tu es sans péché et que tu as tout pouvoir sur ma vie, puisque je peux te demander quelque chose que je pense peut-être obtenir. Tu as la possibilité de te souvenir de moi, donc que je ressuscite, donc que je revive à nouveau. Mais je le fais à ma place. Moi, je ne suis qu'un homme, mais c'est toi qui décides. C'est toi qui m'appelles, c'est toi qui choisis. Et Jésus répond à ces trois demandes et à ces trois besoins essentiels par une simple phrase qui nous est rapportée. Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » On a coutume de citer comme verset clé de la Bible Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, etc. Mais celui-ci, il est vraiment pas mal non plus. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus répond, comme vous le savez, selon trois axes. Tout d'abord, il lui dit, à quel moment sa condition va changer. Alors que ce brigand sur la croix a du mal à envisager la période à laquelle Dieu pourrait le rétablir, quand tu reviendras dans ton règne, un jour, dans l'avenir. Jésus est beaucoup plus clair. Aujourd'hui, maintenant, maintenant. Le passé ne compte pas et l'avenir commence aujourd'hui pour toi. C'est une promesse à effet quasi immédiat. Jésus est un urgentiste. Il répond dans l'urgence. Il est pressé par cet homme et il lui répond d'une manière immédiate en lui donnant l'assurance que ce qu'il va faire pour lui va se produire aujourd'hui. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Je ne sais pas si certains ici ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus, n'ont pas encore accepté et compris que Jésus était mort pour leurs péchés, que Jésus était ressuscité pour les déclarer justes, sans qu'ils aient à mériter quoi que ce soit. Mais je voudrais vous dire, si c'est le cas, que tout peut changer aujourd'hui. Jésus peut vous adresser des paroles tout à fait équivalentes à celles-ci. Si vous croyez que vous êtes pécheur, que vous avez offensé Dieu, si vous comprenez et reconnaissez que Jésus est le Fils de Dieu, et si vous pensez que vous pouvez être sauvé, non pas par le bien que vous pensez avoir fait, mais par l'action simple de la grâce de Dieu, alors vous pouvez prendre pour vous cette parole. Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi. C'est formidable. Quelle simplicité. Pour nous qui connaissons déjà le Seigneur Jésus depuis bien longtemps, c'est bien de nous souvenir qu'aujourd'hui tout peut recommencer. Tout peut être restauré. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. C'est aujourd'hui aussi une occasion pour chacun d'entre nous de rafraîchir notre relation avec le Seigneur. D'une certaine manière, le passé ne compte pas, c'est aujourd'hui qui compte. Le passé est souvent un fardeau qui nous retient dans la culpabilité ou qui nous maintient dans l'orgueil. En raison d'une soi-disant expérience qu'on pourrait considérer supérieure aux autres. Mais ce qui intéresse Jésus, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est ça la vie chrétienne. C'est un éternel aujourd'hui. On se remet constamment entre ses mains. Donc voilà la première réponse qui va satisfaire le cœur de cet homme. Il a besoin de savoir quand, même s'il ne le dit pas explicitement, eh bien Jésus lui dit que tout va se produire aujourd'hui. Tu vas être réconforté aujourd'hui. Dieu aime réconforter vite. Dieu aime apporter la paix rapidement. Et ensuite il lui dit avec qui il sera. Tu seras avec moi. Tu l'es déjà, tu seras encore avec moi. Voilà ce qu'il a de plus important pour lui à savoir, qu'il sera avec Jésus. Et l'endroit, eh bien, dans le paradis, c'est-à-dire l'éternité où se trouve Dieu, le Dieu éternel, le ciel, la demeure du Très-Haut, là où des milliers d'anges célèbrent sa gloire, là où la lumière de Dieu est trop forte pour qu'un homme ou une femme tel que nous aujourd'hui puissions la voir, tu seras dans ce paradis. Tu y seras avec moi. Jésus a compris que cet homme avait le besoin d'être rassuré par rapport à son péché, à son passé, mais il avait compris aussi, il savait, il avait vu en cet homme qu'il désirait plus que tout être avec lui. Voilà peut-être tout ce qu'un homme ou une femme a besoin d'entendre et de savoir, ou de savoir au moment où il est exposé à l'Évangile. Voilà ce que les disciples auraient dû demander à Jésus, plutôt que de savoir s'il siégerait à sa droite ou à sa gauche, s'ils avaient pu comprendre la mort qui l'attendait pour eux. Ils auraient dû dire, au lieu de dire « Ah, qui sera ? Qui aura le privilège d'être assis à ta droite, à ta gauche ?» Ils auraient dû dire, s'ils avaient vraiment compris la grâce de Dieu, s'ils avaient compris vraiment leur péché, s'ils avaient vraiment compris que Jésus était Dieu, s'ils avaient vraiment compris que tout était grâce et que le fait d'être disciples de Jésus, ça ne leur donnait pas un mérite particulier, ils auraient dû dire « Seigneur, qui aura le privilège d'être sur la croix à ta droite et l'autre à ta gauche pour entendre tes paroles, pour entendre tes dernières paroles avant ta mort ?» Et pour que tu sois la dernière personne à me parler, avant la mienne. Cet homme ne fait pas de reproche à Jésus. Aucun. Il ne lui demande pas une seconde chance. Et s'il est convaincu de son indignité en cet instant, il ne s'apitoie pas pour autant sur sa vie ratée. Il ne fait mention que de lui et de Jésus, avec quelques paroles pour l'autre compère dont il a tranché le sort assez vite. Ce brigand ne demande pas à Jésus de le libérer de cette croix. Est-ce qu'il avait assez de foi pour ça? Bien sûr, il croit que Jésus est Dieu. Si on croit que Jésus est Dieu, on peut tout croire, puisque tout vient de Jésus et de Dieu. Il demande ce qui compte vraiment pour lui, le pardon, l'amour, la communion. En fait, quelqu'un qui vous dit « je t'aime ». Je t'aime maintenant et pour l'éternité. Et il voulait rester donc avec Jésus. Voilà les besoins fondamentaux d'un être humain. Je regardais hier à l'aéroport, en attendant mon vol, toute cette nuée d'êtres humains semblables à moi. Je dis, combien te connaissent, Seigneur? Ils ont tous, comme moi, différents besoins secondaires. Mais leurs besoins fondamentaux, c'est quoi? C'est d'avoir le pardon de Dieu. C'est de savoir que quelqu'un te dit, je t'aime, maintenant et pour l'éternité. Et moi, Dieu qui t'ai créé, je serai à tes côtés pour toujours. C'est tout. C'est tout. Ce qui me frappe chez cet homme, c'est qu'il n'est pas sensible qu'à lui-même. Et quand l'action de Dieu agit dans notre cœur par l'Esprit de Dieu, eh bien c'est ce qui se produit. On est plus centré sur nous-mêmes. Quand il parle à son comparse, il parle de Jésus, il aurait pu ne pas en parler. Il est soucieux du sort du Seigneur. Et le vrai bonheur, c'est ça. C'est pas simplement être pardonné, être aimé, c'est aussi avoir un cœur qui se déporte vers Jésus, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Les priorités ont changé. Seigneur, c'est toi que j'élève avant de considérer ma propre vie. C'est ce que produit l'Esprit en nous et c'est ce qui nous donne, nous, la satisfaction de savoir que Dieu est satisfait. À cet instant, ce brigand n'a pas besoin de doctrine. Il n'a pas besoin de correctif. Jésus ne lui donne pas un cours. Il n'a pas besoin de regarder vers d'autres témoins de la foi. Il n'a pas besoin, comme un hamster tourne dans sa roue, de se poser sans fin la question de l'élection et de la prédestination. Et qui de la poule et de l'œuf, et comment les deux vont ensemble, et comment ça marche. Et comment trois personnes peuvent former un même Dieu. Il n'a pas besoin de passer des heures dans les bibliothèques pour répondre à ces questions qu'il ne se pose pas. Tout est clair en Jésus. Tout est clair avec Jésus. Jésus est la lumière du monde. Quand on voit Jésus, on voit le Père. De quelle connaissance a-t-on encore besoin? Puisque toute connaissance a pour but de nous les faire connaître. Et il ne s'attarde pas sur le millénium, sur le pré, le poste, le... tout ça ne compte pas. Et d'une certaine manière, même s'il est sur une croix, il n'a pas eu le temps de porter la sienne. Il n'a pas été persécuté pour sa foi. Il n'a pas eu le temps d'être baptisé. Il n'a pas eu le temps de choisir sa dénomination. Il n'a pas eu le temps de faire des misères à son pasteur. Il a Jésus. Jésus. Quand Jésus a été tenté par Satan dans le désert pour démontrer qu'il était le vrai Israël, que lui pouvait triompher de tout et qu'il était vraiment Dieu, le diable a tenté de séduire Jésus en lui faisant convoiter des richesses, du pouvoir, une fausse liberté à l'égard de son père, au moyen du mensonge, au moyen de mirages. Ici, cet homme est face à l'expression ultime et parfaite de la vérité, à l'expression ultime et parfaite du Père, et il pourrait réellement lui demander tout. Tout. Et mais il ne demande que ce qui est le plus important pour lui, que ce qui compte pour lui. Je ne pense pas qu'il se dise, bon, il y a pas mal de choses auxquelles je pense, et puis je vais m'attarder sur l'essentiel. Non, l'essentiel est vraiment l'essentiel. Il n'est omnubilé, préoccupé, que par la volonté de se savoir pardonner, aimer et vivre avec Jésus pour toujours. Jésus lui donne cette garantie en lui disant qu'en vérité, tu seras avec moi. Et il obtient donc un engagement de la part de Jésus. Si vous ne connaissez pas Jésus et si ces paroles que nous lisons ce matin vous donnent, produisent en vous le désir de vous approcher de lui, sachez que vous recevrez de lui un engagement. Personne n'arrachera de ma main ce que le Père m'a donné. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. C'est une certitude absolue que nous avons besoin d'avoir dans notre cœur quand nous devenons chrétiens. Et ce « avec moi » dont parle Jésus à cet homme, lorsqu'il lui dit qu'il sera donc avec lui pour l'éternité, renvoie à ce qu'il y a de plus merveilleux en Dieu, à ce qu'il y a de plus admirable dans la Trinité. Cette communion entre les différentes personnes de la Trinité, particulièrement entre Jésus et le Père. Nous lisons dans Jean 1, au chapitre 1, verset 1, « Au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. » Ce que Jésus promet à cet homme, c'est la même plénitude. Cela le renvoie au-delà de ce monde qui passe, au-delà de l'histoire, au-delà des souffrances. Alors même que l'apôtre Pierre pleure encore sur son reniement, alors même que Thomas n'a pas levé tous les doutes sur la résurrection à venir, alors même que Paul se nomme encore Saul et se prépare à persécuter les chrétiens avant d'être appelé par Jésus, un homme dont on ne connaît même pas le nom, un anonyme, une ombre, en présence de Jésus, reçoit cette promesse d'expérimenter un amour avec Jésus que se partagent déjà le Père et le Fils. Vous vous rendez compte? Il y a un an, au mois de juin dernier, ma mère est décédée. Nous avons appris sa maladie trois semaines avant son décès. C'était assez fulgurant. Et c'était un moment tout à fait particulier parce que pendant 30 ans, j'ai prié pour son salut. J'ai prié, et des fois, j'ai plus prié pour son salut parce que j'en avais vraiment marre. Et pendant 30 ans, je lui ai parlé de Jésus. Et pendant 30 ans, elle s'est moquée de moi. Et puis, au fil du temps, elle se moquait un peu moins de moi. Elle écoutait en silence. Mais c'est tout. Et quand elle est tombée malade, elle n'était pas où j'habite, Donc il a fallu la faire rapatrier. On l'a fait rapatrier 3 jours juste avant son décès. Et j'ai eu 3 jours exceptionnels avec elle. 3 jours qui ont changé tout. Ce n'est pas ce qui est avant qui est important. C'est aujourd'hui qui compte. J'ai eu le privilège de pouvoir passer du temps avec elle à l'hôpital. Et le premier jour, on s'est retrouvés. Je lui ai demandé pardon pour un certain nombre de choses. Et puis, des éclaircissements. Et elle était contente de me voir. Je suis fils unique, ce qui rajoute... Et puis, le deuxième jour... Je sentais le matin qu'il fallait que je lui parle encore une bonne fois pour toutes de Jésus. À ma mère, j'ai toujours parlé de la mort. Même il y a très longtemps, je lui ai toujours parlé de la mort. Pour moi, parler de l'évangile, c'est parler de la mort, c'est parler du passage. Et là, Dieu nous a donné un moment de grâce, comme ce brigand sur la croix. Un moment incroyable. J'ai pu l'entendre dire qu'elle reconnaissait que jusqu'à présent elle avait mis toutes ses forces en elle-même. C'est une femme très active, très très travailleuse, consciencieuse, mais qui pensait que ses propres forces suffisaient à changer sa vie et celle des autres. Et elle reconnaissait qu'elle n'avait plus de force. Elle était en état de fatigue très avancé. Et je lui ai dit, est-ce que tu veux qu'on prie ? Est-ce que tu veux accepter Jésus comme sauveur ? Et elle a prié. Il ne faut pas se décourager. Il faut prier. Et il faut annoncer l'évangile dans son intégralité. Pour conduire à une vraie repentance. Jésus, c'est l'évangile. Il se prêchait lui-même sur cette croix. C'est pour ça qu'on fait la Sainte Cène, pour rappeler cet évangile vivant. Et cet homme a tout compris, comme ma mère ce jour-là a tout compris. Elle a donné sa vie à Jésus. Elle a eu le temps de voir ses petits-enfants, de les serrer dans ses bras, et le lendemain, elle s'est éteinte, elle a rejoint le Seigneur. C'est dingue. Même des fois, je me pince parce que on a tellement de mal à penser que des hommes et des femmes tellement fermés à l'évangile puissent être sauvés que quand ça arrive, on se dit mais. Et voilà. Et peut-être vous avez dans votre vie des personnes qui sont dans cette situation, qui se moquent de vous. Peut-être c'est pas grave. Priez d'autant plus pour eux. Annoncez l'évangile. Parlez, si le Saint-Esprit vous donne l'occasion, parlez de la mort, parlez de cette rencontre avec Dieu. On est une poussière, une herbe. Demain, on ne sera pas là. Le Seigneur va peut-être revenir tout à l'heure. Il faut parler de ce qu'il y a de plus important. Alors, voilà, je ne vais pas trop prolonger, mais ce récit peut vraiment nous aider dans la manière dont nous vivons notre relation avec Jésus-Christ. Tout d'abord, pour nous souvenir de la grande simplicité avec laquelle on peut se présenter devant lui à tout instant. Quel que soit notre péché, quel que soit nos fardeaux, quelles que soient nos difficultés, c'est toujours aujourd'hui pour Jésus. C'est toujours maintenant. Et ses promesses ont autant de force que quand il était sur terre. Elles sont dans sa parole. Il veut cette relation simple avec nous. Ce que Jésus veut, c'est une forme de plénitude. La plénitude de l'amour. La connaissance ne dure pas tout le temps. L'amour, oui. L'amour qui nous remplit, qui nous satisfait, qui fait qu'on sait qu'on existe, qu'on est un être unique, qu'il n'y en a pas d'autre avant nous, qui ait été comme nous et qu'il n'y en aura pas d'autre après nous. Et on est aimé par la personne qui est elle-même amour. Voilà ce qu'on peut attendre. Et il est bon de se rappeler, au travers de nos pensées parfois très sophistiquées, que l'essentiel est là. Se savoir pardonner, se savoir aimer, se savoir avec Jésus pour l'éternité. Conserver cette simplicité de cœur qui nous permet d'avoir une simplicité dans nos relations aussi, les uns avec les autres. On peut s'interroger aussi sur ce qui nous empêche de vivre cette simplicité aujourd'hui. Quels soucis, quels péchés dorlotons-nous les uns les autres pour qui nous empêche d'avoir ce rapport, cette communion avec Jésus. Et puis, je crois que l'Écriture, comme vous le savez, nous encourage à nous attendre à l'imminence du retour du Seigneur Jésus. Je pense que ce texte nous aide à nous projeter dans ce moment-là. Nous savons que nous n'avons rien à craindre, que nous ne serons pas pris à l'improviste, puisque nous connaissons le Seigneur déjà, il est déjà en nous. Il va revenir, nous allons le voir, mais il est déjà là. Nous veillons déjà, nous sommes vigilants. Eh bien, c'est, je pense, un moyen pour nous, ce récit, de nous souvenir qu'à tout instant, le Seigneur peut revenir. Et alors, qu'est-ce qui sera le plus important? Nos objectifs qui n'ont pas été atteints? Nos processus qui n'ont pas été à leur terme? Voir que nos enfants, nos petits-enfants se sont mariés, connaissent le Seigneur? On a toutes sortes d'attentes, finalement, qui sont plus ou moins légitimes. Que Dieu met dans notre cœur. Mais le vrai désir de notre cœur, la véritable chose qui devrait nous préoccuper, c'est lui. C'est de nous attendre à lui. L'apôtre Paul désirait partir de ce monde pour rejoindre le Seigneur. Il dit, je ne le fais pas parce que je dois m'occuper encore de... J'ai des choses à faire, j'ai l'Église dont je dois m'occuper. Mais mon plus grand désir, c'est quitter ce corps et d'être avec le Seigneur. Est-ce qu'il était déjà avec le Seigneur? Oui, mais l'être vraiment, physiquement, et l'être avec lui, pour l'éternité. C'est ce désir qui est plus grand que tout. Et nous pouvons prier pour que Dieu nous aide à cultiver ce désir, d'avoir vraiment ce désir absolu, de le rencontrer, de le voir. Toutes les épreuves que nous traversons contribuent à cela. Elles nous montrent toutes les illusions que nous cultivons sur nos vies, sur nos capacités, sur nos projets. Toutes nos souffrances physiques nous amènent aussi à considérer la faiblesse du corps dans lequel nous vivons. Toutes les difficultés relationnelles que nous connaissons avec nos enfants, avec nos bien-aimés, parfois dans l'Église, ce sont des éléments qui nous montrent la fragilité de ce monde actuel, de cet univers dans lequel nous évoluons, bien qu'étant déjà sauvés. Et tout cela pour nous but de nous faire grandir en nous cette espérance du retour du Seigneur, pour entendre des choses simples, pour vivre simplement cette communion à laquelle on est destiné. Plaçons toute notre espérance dans la grâce que le Seigneur va nous accorder au jour du Seigneur, et permettez-moi de prier aussi pour vous ce matin et pour moi, ces paroles d'Éphésiens 1. C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus pour tous les saints et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Jésus, c'est vraiment celui qui compte. Vous allez recevoir beaucoup d'enseignements pendant ce moment d'été. Conservons à l'esprit que tous ces éléments de connaissance qui nous sont apportés n'ont qu'un seul but, nous aider à mieux comprendre Jésus, et mieux comprendre sa grâce pour mieux jouir de la communion avec lui et avec son Père dans l'Esprit Saint. Je vais prier. Seigneur Jésus, tu as fait de nombreux miracles, tellement que beaucoup n'ont pas été rapportés dans les évangiles, et tu en fais encore aujourd'hui. Et le plus grand, Seigneur, c'est celui que nous avons vu dans ce récit, où un homme perdu, un homme placé au banc de la société, un homme rejeté de tous, même par celui qui était peut-être son complice, cet homme a trouvé une pleine satisfaction dans la seule personne de Jésus, dans son sacrifice et dans ses promesses. C'est tellement formidable, c'est tellement simple. et tellement vrai en même temps. Seigneur, nous réclamons pour nous-mêmes cette simplicité dans notre manière de vivre avec toi. Nous voulons avoir des attentes semblables à celles de cet homme. Et nous savons que c'est toi seul qui peux produire cela. Nous ne le pouvons pas. Sans nul doute, cet homme, quelques heures avant de se retrouver sur cette croix, ne s'attendait pas à être touché par l'Esprit comme il le fit, comme il le fut. Et Seigneur, tout cela est arrivé par toi. Pour que aussi Jésus, jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à son dernier souffle, nous fasse entendre qu'il est venu pour sauver, pour pardonner, pour extraire du jugement des hommes et des femmes condamnés. Seigneur, nous te prions vraiment pour la communauté ici, pour que chacun grandisse dans sa relation avec Jésus et dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Nous prions que tu portes du fruit en chacun et que une grande simplicité de cœur se maintienne et perdure. Que Seigneur, personne ne cherche de vaine gloire et que chacun regarde l'autre comme étant au-dessus de lui-même. Seigneur, nous t'aimons. Merci Jésus, tu es notre vie, tu es notre sagesse. Tu es tout, tu es Dieu, tu es la sainteté et tu es notre espérance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions. Amen. Merci.